les chemins de traverse, escapade à Belle-Île en mer, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Dans cette série des chemins de traverse, je vous emmène pour une escapade sur l'aînée des îles du Ponant. Bonjour et bienvenue pour une visite insolite de la plus grande des îles bretonnes, Belle-Île en mer. Deuxième rendez-vous sur Belle-Île. Dans cet épisode, nous allons prendre à nouveau le bus, depuis le palais, pour rejoindre Port-Coton, à l'opposé du palais, face au large. Lundi 21 juillet, le temps est beau, avec un ciel bleu et un vent nord-ouest. Heures du matin sonne au carillon de la mairie, alors que nous nous dirigeons vers la gare routière en haut de la ville, à côté de la citadelle, pour prendre notre bus. Belle-Île est une île que vous pouvez parcourir en voiture, en moto, en scooter, à vélo, à pied ou en bus. Le bus est un moyen idéal et plaisant pour visiter l'île. Déjà, vous êtes en hauteur, donc vous profitez pleinement du paysage. Deux lignes principales de bus vous permettent de vous déplacer à travers l'île et de rejoindre les différents villages et sites. En préparant bien votre journée, vous pouvez tout comme nous combiner trajet en bus et balade à pied, une façon tout à fait originale et dépaysante de découvrir Belle-Île. Pour l'heure, nous sommes dans le bus nous emmenant à Port-Coton. L'arrivée offre de très belles vues sur le grand phare, la côte et le paysage de l'Andes.
Pour les personnes qui descendent à Port-Coton, voilà, à Port-Coton.
Merci, au revoir.
Le grand phare, aiguille de Port-Coton. Là, on est aux aiguilles de Port-Coton. Il y a Port-Coton sur la droite. Il y a un blocos sur la gauche. C'est une station radar. Et encore plus sur la gauche, il y a Port-Boulephard.
Petit port de plaisance dans une anse naturelle où l'eau est d'un incroyable vert, tout en harmonie avec la verdeur de la lande. Un superbe endroit.
Dans la pointe du triangle de Port-Coton et Boulephard, il y a le grand phare.
Port-Coton est un site de l'île particulièrement beau et sauvage. Au bout de la route de Port-Coton, les aiguilles de Port-Coton, roches dentelées, se dressent au milieu de la fureur des flots. L'appellation du lieu vient de l'écume projetée qui s'élève avec le vent comme des touffes de coton et vient fouetter les roches sculptées par l'océan. Voici ce qui est écrit sur le panneau au niveau du site.
Les aiguilles de Port-Coton, une dentelle de schiste. Plissements innombrables, alternance de fines couches de sédiments redevenues roches au cours des siècles. La mer a d'ailleurs exploité cette fragilité, transformant la côte en une dentelle de pointe, de criques, d'îlots et de grottes par dizaines. La beauté du site des aiguilles de Port-Coton donne place à l'imagination. En 1886, il s'est même laissé peindre par un maître, Claude Monet.
Dans une lettre adressée à la peintre Berthe Morisot, Monet exprimait son désir d'aller en Bretagne. À l'automne 1886, il prend le bateau à Quiberon, en direction du petit port du Palais. Il s'installe chez un pêcheur du hameau de Kerville-Aouen, sur la côte sauvage, partie la plus caractéristique de l'île qui va l'inspirer. Grâce à John Peter Russell, un peintre australien également sur place, il utilise les services d'un vieux matelot qui l'emmène matin et soir par les sentiers les plus escarpés et dans les coins les plus sauvages. Parmi ces lieux, Monet tombe sous le charme de Port-Coton et met plusieurs tableaux du site en chantier. Il peint, en contre-plongée, les schistes bleutés filetés d'or. Sur la durée de son séjour, il va peindre une quarantaine de toiles. Monet écrira « Pour peindre vraiment la mer, il faut la voir tous les jours, à toute heure et au même endroit, pour en connaître la vie à cet endroit-là. »
Donc, t'as vu, il y a un chemin qui mène au grand phare.
Ouais, donc on peut aller de Port-Coton au grand phare par un chemin. Ouais.
Chemin que nous allons emprunter sans plus tarder pour rallier le grand phare afin d'y rencontrer un de ses gardiens, et de le visiter. Entretien avec Michel Granger, gardien de phare à Belle-Île-en-Mer.
Monsieur Granger, vous êtes gardien de phare. C'est un beau métier, ça.
Oui, ça paraît original encore aujourd'hui, de plus en plus.
Ouais. Comment vous êtes devenu gardien de phare?
Vous savez, on est à Belle-Île-en-Mer, et quand on est sur le littoral, et notamment sur les îles, le phare et les gardiens du phare, ce sont des gars comme tout le monde, hein, comme le boulanger, comme le maçon, comme tout autre métier. Donc de devenir gardien de phare quand on est insulaire, c'est pas forcément une originalité chez nous. Donc en 79, j'étais électricien et je connaissais les gardiens du phare. Je savais qu'une place se libérait, qu'il y avait possibilité d'y rentrer. Et le métier m'intéressait. J'avais déjà un oncle qui avait fait ce métier. Donc c'était pas, comme je disais, très original. Hein, dans la famille, on connaissait et dans l'entourage aussi. Donc je suis rentré en septembre 79 dans ce même phare, ici à Goulphare, pour faire à l'époque les remplacements des titulaires. On nous appelait auxiliaires de phare et on était recrutés pour faire les remplacements à droite ou à gauche dans les phares pendant que les titulaires prenaient leurs vacances, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le service des phares et balises. Et comme on est fonctionnaire aujourd'hui du ministère de l'écologie, développement durable et de l'énergie, là, le MEDE, donc pour devenir titulaire à mon tour, j'ai passé un concours au bout d'un an d'auxiliaire. Et ayant réussi ce concours, j'ai fait une formation d'une année à Brest. Et comme tout fonctionnaire, à l'issue de cette formation, pour être titularisé, j'ai eu mon premier poste. Et à l'époque, il y avait encore des phares en mer. J'ai pas pris un phare en mer, mais je suis allé à Boulogne-sur-Mer. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, mon entrée dans le métier.
Au rez-de-chaussée du Grand Phare, une exposition permanente présente différentes thématiques. L'histoire des phares, le balisage, la construction des phares de Belle-Île et le métier de gardien. Souvenir, souvenir.
Souvenir. La vie de Serge Viard est étroitement liée au Grand Phare. Son père était maître de phare et lui-même y est né en 1933. Dès 11 ans, son père le sollicite pour l'aider au Grand Phare. Il me réveillait la nuit pour que j'aille débloquer la sirène. Je partais dans le noir et la brume et je marchais 10-15 minutes pour atteindre la petite maison. Comme les contrôleurs de Goulphare aujourd'hui, son père et sa mère disposaient d'une maison de fonction et d'un jardin dans l'enceinte du phare où ils cultivaient un potager. Serge garde un souvenir précis de certaines fêtes sur l'île, comme les mariages à Bangor, où les invités avaient par tradition le droit de monter au sommet du phare. Le lundi de Pâques, tout Belle-Île fêtait la brioche au Grand Phare. Malgré les années, il n'en a pas oublié le goût. Je n'en ai jamais mangé d'aussi délicieuse.
Donc vous êtes retrouvé à Boulogne-sur-Mer.
Michel Granger, gardien de phare.
Oui, j'ai fait 3 ans et demi là-bas de...
Un phare pareil sur la côte.
Sur le port. Petit feu sur le port. Et à l'époque, il n'y avait pas de télécontrôle, donc on observait de visu le fonctionnement d'autres phares aux alentours et de bouées lumineuses qui balisaient les accès au port de Boulogne-sur-Mer. D'accord. Donc on avait une partie surveillance et entretien de tout ça, quoi.
Les phares, c'était automatisé ou c'était encore un phare?
Alors, il y avait un phare sur la grande jetée du port de Boulogne-sur-Mer qui avait déjà été automatisé, mais notre petit poste, nous, était une permanence H24, donc on se succédait là pour faire la veille 24 heures sur 24. Et maintenant, bien sûr, tous ces postes-là ont été automatisés et les gardiens ont disparu. Il y a juste le service technique qui passe pour faire la maintenance, mais il n'y a plus de présence.
D'accord, présence humaine.
Humaine, voilà, exactement.
D'accord. Et de Boulogne-sur-Mer, alors, comment vous êtes arrivé sur Belle-Île, au Grand Phare?
Alors, j'ai fait une autre étape intermédiaire. Ah. Déjà, j'ai voulu me rapprocher de la Bretagne. Donc, Boulogne, je suis allé en 81. Après 3 ans et demi de travail à Boulogne, je suis parti en fin 84. Et je suis venu au phare de Penmen, sur l'île de Groix. Donc, étant... Bellillois, de vivre à l'île de Groix, c'était...
Pas trop dur.
Pas
trop loin, en plus.
Pas trop loin. Donc j'ai fait 3 ans et demi dans ce poste de penman à l'île de Groix, où là aussi, On faisait de la veille continue encore, hein, de la veille H24. On avait une sirène de brume à mettre en marche quand il y avait du brouillard et que les marins ne pouvaient pas voir le phare à cause de la brume. Donc ça nécessitait de la veille de jour comme de nuit, et on était trois gardiens à se relayer pour assurer la veille continue, quoi.
D'accord.
Et en août 87, donc après 2 ans et demi sur l'île de Groix, j'ai eu mon poste à Belle-Île, que j'occupe depuis d'ailleurs. Je m'étais marié entre-temps. Ma femme avait un poste sur l'île de Groix d'enseignante. Et cet été 87, se libérait un poste à l'école de Belle-Île et un poste au phare à Belle-Île. Et étant originaires de Belle-Île tous les deux, donc on s'est dit, c'est le moment ou jamais de retourner chez nous.
De postuler. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui demandent forcément sur Belle-Île. Quand même, non plus.
Sur les îles, non, il n'y a pas... Quand on est insulaire et natif des îles, on est tout à fait adapté à cette vie-là. Ouais. Par contre, les non-insulaires hésitent un peu à venir faire leur vie complètement sur les îles. Donc il n'y a pas trop de candidatures quand il y a des postes vacants, quoi.
Les chemins de traverse, escapade à Belle-Île en mer.
Et donc depuis 1987,
oui,
vous êtes au Grand Phare.
Alors, je suis au Grand Phare, sur Belle-Île, oui, basé au phare de Goulfar, hein, qu'on appelle le Grand Phare de Belle-Île. Donc, on était 7 à l'époque, aujourd'hui, on est encore 4, ou plus que 4, ça dépend comment on prend les choses. Oui. Donc, l'effectif a diminué avec les automatisations aussi.
Mais c'est pareil, ça s'est automatisé depuis que vous êtes arrivé.
Ah oui, ça fait plus de 30 ans de carrière, et en 30 ans de carrière, j'ai vu pas mal d'évolutions et de phares s'automatiser et les postes disparaître au fil du temps, quoi. Donc, sur Belle-Île, c'est encore un petit peu original, parce qu'on a encore 4 emplois dans le phare de Goulfar, là. Et ce n'est pas pour faire marcher le phare qui est au-dessus de notre tête, hein. Les 4 emplois ici sont justifiés par la station de contrôle que renferme ce phare. Et cette station de contrôle nous sert à surveiller par télécontrôle le fonctionnement des autres phares, justement, qui sont devenus automatiques et qui ne sont plus gardiennés. Donc à Goulfar, on s'occupe des phares automatisés du littoral du département du Morbihan. Nous en avons une 50aine de surveillés par notre système de télécontrôle. Alors ces phares, ce ne sont pas tous des grands phares comme celui-ci, hein. C'est des grands, des moyens, des petits. Et quand je parle de petits phares, c'est souvent les petits feux qu'on trouve à l'extrémité des jetées, comme à Palais quand on rentre dans le port du Palais, là, pour quand on accède à Belle-Île. Donc il y a des petits phares au bout des jetées qui sont également télécontrôlés. Et dans la 50aine d'établissements surveillés, je vous le disais, il y a des grands, des moyens et ces petits phares de port, quoi.
Donc c'est une surveillance, c'est voir si les ampoules marchent bien, enfin je ne sais pas, je ne me rends pas trop compte.
On a une partie, dans le télécontrôle, effectivement, on s'assure que le phare fonctionne bien. Donc avec ce télécontrôle qui est tout informatisé maintenant, hein, tout ça se gère par ordinateur, on met des seuils d'heures de passage jour-nuit et de passage nuit-jour, et si un établissement n'est pas allumé aux heures que l'on a programmées, on reçoit une alarme signalant que le phare ne marche pas. Alors ici même, moi j'ai connu la veille continue, mais aujourd'hui les technologies permettent de se passer de la veille continue. On a nos alarmes qui arrivent à la station de contrôle et qui sont retransmises par SMS sur un téléphone portable qui est détenu par un agent d'astreinte de nuit. Donc on n'a plus de travail de nuit, on a simplement un régime d'astreinte. On va dormir avec le téléphone portable à côté de soi et s'il y a un problème, on est bipé et on vient voir ce qui se passe. Quoi, voilà.
D'accord, donc vous n'êtes plus domicilié, entre guillemets, au niveau du phare.
C'est alors, fini, quoi. On est domicilié... Tout à côté, dans les bâtiments qui entourent le phare, on a des logements de fonction. Et les 4 gardiens qui travaillent au phare occupent ces 4 logements de fonction avec leur famille. Donc c'est un petit village ici qui vit toute l'année de la même manière.
C'est pas gardien de phare, en fin de compte, vous êtes gardien des phares.
Gardien des phares, effectivement, oui, parce qu'on en surveille plusieurs.
Suite de la rencontre avec Michel Granger, gardien au phare du Goulfar, lors de notre prochain rendez-vous. Au revoir et à très bientôt sur cette même antenne pour la suite de l'escapade à Belle-Île en mer. C'était Les Chemins de Traverse, une émission réalisée par Pascal Laurière, un programme Maurice Clément-Fèvre.